Fun vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique. Nous sommes en direct de Washington, dans le Studio 13 avec vous ce soir, Nicolas Pineau et Morgane Guirièque. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Nicolas, bonsoir l'Afrique.
Au menu ce soir, l'attaque repoussée à Kinshasa contre le camp militaire de Tchatchi.
À Brazzaville, les ex-Séléka boudent le forum centrafricain qui doit s'achever demain.
Je déplore ce comportement criminel, on doit tout se dire.
Maître Lynn Banoukepa.
Gros plan aussi sur le Mali, le gouvernement part en guerre contre l'anarchie foncière.
Dans la capitale malienne, il n'est pas rare de voir des bars et restaurants, boîtes de nuit et les lieux de culte contigus. Ou encore, ce sont des maisons à usage d'habitation.
Reportage à suivre de notre correspondant Kassim Traoré.
Au Sénégal, nouveau rebondissement dans l'affaire Abdulaziz Ndao, ce colonel qui a voulu sauver l'honneur de la gendarmerie.
Mais tout d'abord le journal, vous écoutez La Voix de l'Amérique. Bonsoir.
Tir nourri cet après-midi dans Kinshasa. Pendant plusieurs minutes, le camp de Tchatchi a été attaqué par des assaillants armés. Cette caserne dans l'ouest de Kinshasa abrite le ministère congolais de la Défense. Les autorités congolaises précisent ne pas savoir pour l'heure si les assaillants sont des terroristes ou des malfrats. Lambert Mende est le porte-parole du gouvernement congolais.
Il y a eu un incident de sécurité avec une tentative d'intrusion d'une petite bande d'hommes dont certains étaient armés au sein de cette caserne qui abrite le ministère de la Défense. Jusqu'à présent, nous ne savons pas s'il s'agissait de terroristes ou d'un gang de voleurs à main armée. Quoi qu'il en soit, ils ont été stoppés, ils ont été complètement neutralisés, ça n'a pas pris 15 minutes. Alors bien sûr, le bruit des détonations, des coups de feu ont provoqué une sorte de panique dans les environs. Donc pour l'instant, depuis 14h30, calme règne dans la ville. Et il y a des unités de police et de l'armée qui patrouillent pour assurer les citoyens.
Lambert Mende, joint à Kinshasa.
Pendant ce temps, de l'autre côté du fleuve Congo, à Brazzaville, le forum centrafricain est à l'arrêt. Les ex-Séléka n'ont pas participé à cette deuxième journée de la rencontre. Hier, le chef de la délégation des ex-rebelles, Mohamed Moussa Dafane, a demandé la partition de la Centrafrique pour sortir de la crise, comme nous l'explique Idriss Fall.
Les représentants des ex-Séléka ne sont pas venus ce mardi au Palais des Congrès. Hier, Mohamed Moussa Dafane, le représentant, a exigé la partition du pays pour sortir de la crise. Une déclaration qui a suscité beaucoup de remous. L'état-major des ex-Séléka basé à Bambari se dit favorable à n'importe quelle position adoptée par ses représentants à Brazzaville. À Bangui, réaction de Martin Zigele, président de l'Alliance des forces démocratiques pour la transition.
Tous les responsables des partis membres de l'AFDT ont dit que la question de l'unité de notre pays, c'est le premier mot de notre devise. Donc pour nous, c'est une question sacrée. Il ne peut pas y avoir de débat politique autour de la question de l'unité de la RCA. Donc il n'y a pas de négociation politique possible. Ça ne doit même pas faire l'objet de surenchères politiques. Il faut que cela soit clair parce qu'il y a des notions pour lesquelles des vies ont été sacrifiées dans ce pays, dont l'unité de notre pays.
Le forum de Brazzaville est censé se terminer demain par la signature d'un accord de cessation des hostilités.
Conflit au Soudan du Sud, les rebelles de Riek Machar n'ont pas pu rencontrer le président Yoweri Museveni lors de leur visite à Kampala. Venu demander au président ougandais de retirer ses troupes du Soudan du Sud, ils sont repartis sans le rencontrer, faute d'avoir annoncé leur visite au préalable. Ils ont juste débarqué, a expliqué à l'AFP le ministre ougandais des Affaires étrangères Henri Okello Oryem. La délégation des rebelles sud-soudanais indique être repartie en Éthiopie, où se tiennent les négociations de paix sud-soudanaises.
Et dans le reste du continent, au Nigeria, c'est une première depuis l'enlèvement des lycéennes par Boko Haram le 14 avril dernier. Sara Diaby, 100 jours après leur disparition, le président Goodluck Jonathan a reçu à Abuja quelques familles des lycéennes enlevées.
Goodluck Jonathan a rencontré pour la première fois des parents de jeunes filles enlevées par les islamistes. Plus de 150 personnes ont assisté à cette réunion à huis clos à Abuja. 100 jours après l'enlèvement des lycéennes à Chibok, les parents ont exprimé leur frustration sur la lenteur du gouvernement à fournir des informations et des efforts pour obtenir la libération de leurs enfants. Pendant une récente visite à Abuja, La jeune Pakistanaise Malala Yousafzai avait exhorté le président nigérien à recevoir les parents des lycéennes kidnappées. Cette réunion s'est tenue juste après une autre attaque des islamistes à Damboa, au nord-est du pays. Les médias nigériens affirment que la ville est entre les mains de Boko Haram, mais Chris Olukolade, porte-parole de l'armée, a démenti la prise de la localité par les islamistes.
8 personnes arrêtées en Tanzanie suite à une découverte macabre. 85 sacs poubelles bourrés de restes humains ont été retrouvés sur une décharge de Dar es Salaam. Les suspects travailleraient dans une faculté de médecine privée.
À Madagascar, une cinquantaine de journalistes ont manifesté aujourd'hui à Tananarive. Ils protestaient contre l'arrestation de deux de leurs confrères suite à la publication d'une lettre de lecteurs accusant 3 ministres d'être complices d'un trafic de bois de rose.
Pendant ce temps, au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle a annulé une loi faisant de la diffamation un crime passible de 20 ans de prison. Une loi qui portait atteinte à la liberté d'expression a estimé la justice.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 18h36, temps universel dans le reste du monde. La communauté internationale a failli à son obligation de protéger les civils en temps de guerre. C'est ce qu'a affirmé ce mardi le représentant palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, devant le Conseil de sécurité. Depuis Tel Aviv, le secrétaire général des Nations Unies a appelé Israël et le Hamas à déposer les armes pour faire cesser la violence dans la bande de Gaza. Ban Ki-moon intervenait lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre israélien. Les détails avec Jacques Aristide.
Arrêtez de combattre, commencez à parler, c'est le message du patron de l'ONU aux Israéliens et Palestiniens au 15e jour du conflit meurtrier. Quant au chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou, il a déclaré que le peuple de Gaza est la victime du régime brutal du Hamas. Ban Ki-moon s'était auparavant rendu au Caire avec le secrétaire d'État américain pour tenter de mettre un terme au combat. John Kerry, lui, se trouve toujours dans la capitale égyptienne où il a rencontré le président Abdel Fattah el-Sissi, le chef de la diplomatie américaine, s'est prononcé non seulement pour un cessez-le-feu, mais aussi en faveur de la reprise rapide du processus de paix israélo-palestinien. Mais sur le terrain, aucun signe d'apaisement ce mardi. Les frappes aériennes menées par l'État hébreu ont fait au moins 10 morts dans la bande de Gaza, tandis que des roquettes ont été lancées vers Israël à partir de cette région contrôlée par le Hamas. Quant au bilan depuis le début du conflit, il s'élève à plus de 600 morts, principalement des civils, d'après les Palestiniens. Côté israélien, l'armée rapporte que 27 soldats et 2 civils ont été tués.
Enfin, conséquence du conflit, l'Agence américaine de l'aviation interdit pour 24 heures aux avions des compagnies aériennes américaines de voler vers ou depuis Israël ce après la chute d'une roquette près de l'aéroport international de Tel Aviv. Delta, US Airways et United Airlines avaient déjà annulé plus tôt dans la journée plusieurs vols vers et depuis l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv.
En Ukraine, les dépouilles de près de 300 personnes tuées dans le crash de l'avion malaisien ont été transportées par train dans la ville de Kharkiv, dans l'est du pays. Jean-Roger Billon, les corps doivent être remis aux Pays-Bas qui ont perdu le plus grand nombre de ressortissants dans ce drame.
Le transfert des dépouilles fait suite à la remise des boîtes noires de l'avion à des experts de l'aviation malaisienne. Le chef de la rébellion ukrainienne Alexander Borodai a eu un entretien téléphonique avec le premier ministre malaisien Najib Razak.
Les boîtes noires ont été restituées à leurs propriétaires, les Malaisiens. Nous venons de signer un protocole en vertu duquel la Malaisie devra remettre les boîtes aux experts de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Un responsable de l'armée malaisienne a indiqué que les boîtes ont subi quelques dommages, mais sont intactes et en bon état. Les autorités ukrainiennes, les États-Unis et l'Union européenne affirment que l'avion a été abattu par un missile sol-air alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine jeudi dernier, avec 298 personnes à bord. Il n'y a eu aucun survivant.
En Libye, près de 16 personnes ont été tuées hier et 80 autres blessées dans des affrontements avec des groupes islamistes à Benghazi. On fait le point avec Michel Joseph.
Une source hospitalière a indiqué à l'AFP que la plupart des morts et blessés sont des militaires. Les affrontements ont éclaté après une attaque conduite par le Conseil de Choura des révolutionnaires de Benghazi, une alliance d'islamistes et de djihadistes contre une caserne militaire. Benghazi est souvent le théâtre d'affrontements entre les hommes du général dissent Khalifa Haftar et des groupes radicaux dont Ansar al-Sharia, classée par Washington comme une organisation terroriste. Par ailleurs, la commission électorale a annoncé hier les résultats des élections législatives du 25 juin qui donnent une nette avance à la mouvance libérale devant les islamistes.
On reste dans la région. Le chef du gouvernement tunisien était en Algérie aujourd'hui. Mehdi Joma s'est rendu à Tébessa, près de la frontière. Une visite éclair visant à renforcer la coopération sécuritaire, selon la télévision algérienne. Tébessa se trouve non loin du mont Chambi, en Tunisie, où 15 soldats tunisiens avaient été tués mercredi dernier.
En Syrie, les combats les plus violents depuis des mois opposent les troupes du régime aux rebelles dans l'est de Damas. Ces affrontements interviennent alors que le chef de l'opposition a été écarté en raison de divergences entre les soutiens saoudiens et qataris. Le conflit syrien a fait plus de 170 000 morts depuis 3 ans.
Voilà pour ce journal. De retour avec vous, Morgane Guiriec et Nicolas Pinault dans ce studio. Le Monde aujourd'hui sur la voie de l'Amérique. Tout de suite, la deuxième partie de notre émission, ici. Retour sur les tractations de Brazzaville, Morgane, pour parvenir à une paix durable entre Centrafricains.
Les différents acteurs du conflit et la société civile participent à ce forum dans la capitale congolaise. La décision du représentant des ex-Séléka de demander la partition du pays comme préalable aux discussions a suscité des remous parmi les représentants des différentes tendances. Maître Lin Banou Kepa est proche du président déchu François Bozizé.
Ensuite de la déclaration de Dafan de la Séléka, qui revenait de Cotonou et qui nous a donné leur résolution, leur conclusion de leur rencontre sous l'autorité de Dotodia, qui est tout simplement de partitionner la République centrafricaine. Et ce matin, ils étaient dans 2 commissions, DDR, déploiement, démobilisation et remobilisation, et une commission qui avait pour vocation de se pencher sur la cessation des hostilités. Ils ont demandé, et lui, ils se sont retirés. On leur a trouvé une salle hors des assises là où on se trouve, et ils sont pas revenus, on a fini nos travaux.
Quelle est votre réaction face à ces derniers développements?
C'est les partis dites démocrates ou les prétendants à une éligibilité qui n'ont que ça de mots et au fond sont des criminels de la République, puisqu'ils soutiennent des hommes armés non centrafricains qui constituent la Séléka. Je déplore ce comportement criminel qui aujourd'hui, aux assises de Brazzaville, sous l'autorité du médiateur international Sassou Nguesso, on doit tout se dire, et c'est ce qu'on a commencé hier. Nous avons posé tous les problèmes endogènes et exogènes à l'origine de ces conflits, de ces tueries, de ces barbaries, depuis plus de 2 ans, qui a mis fin à un régime élu, qui a mis fin à des parlementaires élus, et qui a mis à feu et à sang la République centrafricaine, endeuillée. En delà de ça, des politiques, pensant à leurs intérêts mondialiques, trouvent moyen de pousser les hommes armés, les rebelles étrangers de la Séléka, dans les dernières positions de va juste en guerre.
Maître Lin Banou Kepa du camp Bozizé, joint à Brazzaville.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
18h43, temps universel au Sénégal. Nouveau rebondissement dans l'affaire du livre du colonel Abdoulazine Dao. Le gouvernement a décidé de rappeler à Dakar l'actuel attaché militaire à Rome, car selon l'État sénégalais, l'officier a violé l'obligation de réserve. Pour rappel, dans ce livre, le colonel Dao, numéro 2 de la gendarmerie, dénonce des malversations au sommet de ce corps. Dienaba Sedouba est la correspondante de La Voix de l'Amérique à Dakar. Voici son reportage.
Le gouvernement sénégalais se prononce enfin sur le livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndao par la voix du ministre des Forces armées, Augustin Tine.
Le colonel Abdoulaye Aziz Ndao a violé une obligation fondamentale qui pèse sur l'ensemble du personnel des Forces armées.
Selon le gouvernement, il est établi que le colonel Ndao a violé l'obligation de réserve.
Cet officier a commis de graves fautes disciplinaires, une trahison, une révélation de secrets classifiés défense ou pouvant porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation et au moral des militaires.
Vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, le gouvernement a pris des mesures. Parmi elles, le rappel à Dakar du colonel Ndao.
Le rappel à Dakar du colonel Abdoulaye Aziz Ndao, attaché militaire à Rome, auteur du livre. Le colonel Ndao devra répondre des conséquences de ses actes au plan disciplinaire. L'inspection générale des forces armées sera saisie pour enquêter sur les allégations du livre et en tirer toutes les conséquences de droit. Les personnes mises en cause dans ce livre se réserveront le droit d'ester en justice.
Le livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndao, intitulé « Pour l'honneur de la gendarmerie », continue de secouer l'État et la gendarmerie. Dans ce brûlot, l'officier dénonce certaines pratiques. Le numéro 2 de la gendarmerie nationale révèle des malversations à la tête de la gendarmerie, visant l'ancien commandant en chef de ce corps, le général Abdoulaye Fall, surtout dans la gestion du dossier Casamance. Le colonel Abdoulaye Aziz Ndao, actuel attaché militaire à Rome, a été rappelé, mais il ne s'est pas encore présenté. Bien abassé Seydouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Faïda à Kaola.
Direction le Mali dans cette émission, Nicolas.
À Bamako, la capitale, la cohabitation devient difficile entre les boîtes de nuit, les bars d'un côté et les lieux de culte et les espaces résidentiels de l'autre. Bars et mosquées dans une même rue, cela devient difficile et la grogne des populations monte. Voilà pourquoi le gouvernement malien a décidé d'agir dans le domaine foncier, comme nous l'explique notre correspondant Kassim Traoré.
Dans la capitale malienne, il n'est pas rare de voir des bars et restaurants, boîtes de nuit et les lieux de culte contigus. Ou encore, ce sont des maisons à usage d'habitation qui sont transformées en écoles, cabinets médicaux ou lieux de culte. Berthe Aissata Bengali, ministre de l'Artisanat et du Tourisme.
Les établissements de tourisme doivent être à une certaine distance des lieux de culte, des cimetières et puis des habitations. Si depuis la base en amont, les maires peuvent déjà synthétiser toutes les demandes et cela nous permettra d'aboutir à une bonne gestion des établissements touristiques.
Dans l'attribution et l'occupation anarchique des boîtes de nuit, bars et restaurants, ce sont les maires qui sont accusés par la population. Boubacar Ba, maire de la commune 5 du district de Bamako.
Nous consultons nos services techniques et les services techniques de l'Omato. C'est après seulement que le feu vert est donné et après maintenant la personne fait les démarches nécessaires en direction de l'Omato pour être agréé. Nous informons et par écrit, ça veut dire si demain il y a un incident, nous exhibons l'écrit en disant vous avez été prévenu, donc c'est à l'autorité de tutelle de prendre ses dispositions. Un établissement qui est agréé par l'Omato, nous ne pouvons pas le fermer.
Au Mali, en 72 heures, on peut devenir responsable de bar ou espace de loisirs parce qu'il y a le non-respect du décret de 2010 portant à réglementation de l'agrément et l'exploitation des établissements de tourisme. Face à la situation actuelle, les autorités ont demandé la relecture de ces décrets. Les morcellements et attributions illégales des espaces font que 80% des affaires en justice au Mali concernent le foncier. Tchema Iber Koulibaly, ministre des domaines de l'État des affaires foncières et du patrimoine.
C'est un grand désordre. Ce sont des problèmes de comportement, des violations permanentes des textes, des agressions sur le domaine privé immobilier de l'État, aussi bien que sur le domaine public immobilier, et des problèmes de sécurité. Tout le monde est interpellé. L'État se doit, sur le plan technique aussi, de redresser la situation.
Dans l'attribution ou le morcellement des espaces et autres parcelles, la population pense que les géomètres ne font pas bien leur travail. Ali Waïgalo, président de l'Ordre des experts géomètres du Mali.
Nous avons au Mali, l'ordre des géomètres experts, qui selon la loi est la seule structure habilitée à faire un morcellement de tout ce qui est lié au foncier, au cadastre. Mais nous assistons malheureusement à un phénomène aujourd'hui à Bamako et ailleurs. Tout le monde se dit géomètre.
Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Retour aux États-Unis où le gouverneur du Texas, Rick Perry, a décidé d'envoyer 10 000 soldats de la garde nationale à la frontière avec son État, avec le Mexique. Monsieur Perry affirme vouloir endiguer la récente vague de migrants d'Amérique centrale, dont 50 000 enfants non accompagnés qui sont entrés illégalement aux États-Unis. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
Il s'agit d'une mesure extraordinaire pour un gouverneur, mais Rick Perry dit qu'il n'a pas le choix.
I will not stand idly by while our citizens are under assault. And little children from Central America.
Je ne resterai pas les bras croisés pendant que nos citoyens sont soumis à cet assaut et que des petits-enfants sont détenus dans des conditions sordides. En réalité, les autorités fédérales, qui étaient clairement débordées au début, disent que les conditions se sont améliorées depuis. Elles ont établi un grand centre de détention dans l'Arizona et envoyé beaucoup d'autres migrants auprès de membres de leur famille en attendant leur comparution devant le juge. Selon M. Perry, les gardes-frontières ont été obligés de se consacrer au cas de ces nombreux migrants plutôt qu'à leur mission de protection. Et des criminels de tout genre, estime le gouverneur du Texas, profitent de cette tragédie pour faire du trafic de drogue ou du trafic humain. Les enfants, a-t-il encore rappelé, ne représentent que 20% des migrants interpellés à la frontière. Mais beaucoup de gens estiment non nécessaire, voire politicienne, la décision de M. Perry, un ancien candidat à la présidence qui devrait encore briguer l'investiture républicaine en 2016. La garde nationale, rappelle certains de ses détracteurs, ne peut ni arrêter les clandestins ni procéder à leur enregistrement. Elle ne peut pas non plus détenir les trafiquants de drogue. Le déploiement de la garde nationale est cependant une idée populaire chez les conservateurs au Texas et ailleurs aux États-Unis. Au demeurant, certains membres du Congrès en font un préalable à l'approbation des fonds d'urgence de 3,7 milliards de dollars réclamés par le président Barack Obama pour faire face à la crise.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Face au sport dans cette émission, pour en parler, nous accueillons Jacques Aristide. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Nicolas, une fois n'est pas coutume.
Eh oui, on va parler de sport. Alors évidemment, on parle football, Jacques. Oui. Plus que 5 prétendants au poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
Oui, la Fédération Ivoirienne de Football a retenu 5 entraîneurs dans sa shortlist pour le poste de nouveau sélectionneur des éléphants. Francis Gillot, Frédéric Antonetti, Hervé Renard, José Manuel de Jesus et Luis Fernandez. Il y avait 37 candidats au départ. Aucun Africain ne figure sur la liste des 5.
Ça va certainement faire débat à Abidjan. Jacques, le choc au Burkina Faso pour les demi-finales de la Coupe Nationale.
Oui, Nico, à suivre demain la première demi-finale entre le Racing Club de Bobo Dioulasso à l'Union Sportive de Ouagadougou. L'autre rencontre oppose l'Asfa Yenega à l'Étoile Filante de Ouagadougou. Présentation de ces matchs avec Salif Kabore, notre correspondant à Ouagadougou.
Le RCB, premier club de Bobo Dioulasso, deuxième ville du pays au classement du championnat de première division avec sa quatrième place, sera face à l'Union Sportive de Ouagadougou, un club basé à Ouagadougou dans le quartier Larlé, occupant la dixième place du championnat après 29 journées de compétition. La Coupe du Faso est donc un enjeu majeur pour les deux équipes. À défaut donc du titre national, les deux clubs ne veulent pas terminer la saison les bras ballants. Car à la clé, il y a probablement une place à prendre en campagne africaine, mais tout dépendra. Pour y parvenir, l'Union Sportive de Ouagadougou a éliminé en quart de finale Majestic au tir au but par 5-3 à la suite du 0-0, alors que le Racing Club de Bobo Dioulasso a éliminé le club militaire l'USFA par 1-0. L'autre demi-finale va opposer l'Étoile Filante de Ouagadougou à l'Asfa Yenega. Lors de l'édition précédente, les deux équipes rivales du Burkina Faso s'étaient retrouvées à ce même stade de la compétition et l'Asfa Yenega avait éliminé l'Étoile Filante de Ouagadougou par 1-0. L'Étoile Filante de Ouagadougou détient 19 trophées de Coupe du Faso et le dernier remonte en 2011. Quant à l'Asfa Yenega, son dernier sacre en Coupe du Faso date de 2013 et c'était devant l'AS Sonabel, le club de la Société Nationale Burkinabé d'Électricité, sous la note de 2-1. Ouagadougou, Salif Kabore, la voix de l'Amérique.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Voix de l'Amérique. Jacques, on parle transfert cette saison.
Oui, Nico, le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde, James Rodriguez, quitte Monaco pour 80 millions d'euros. Le Colombien s'engage avec le Real de Madrid. Il n'a que 23 ans, 80 millions d'euros. C'est pas trop mal là, ça, Nico. Moi, 23 ans, je n'avais que quelques petites roupies mauriciennes
en moins.
Et d'ailleurs, c'est toujours le cas.
Et puis, il y a une autre annonce aujourd'hui, Jacques.
Oui, effectivement. Donc, comme annoncé hier, Dunga a été intronisé à la tête de la sélection brésilienne ce mardi. Le capitaine du Sacre de 1994, mais sélectionneur de l'échec de 2010, aura pour mission de relancer la Seleção après l'échec de la Coupe du Monde.
Allez, on parle cyclisme, Jacques, la 16e étape du Tour de France.
Oui, l'Australien Michael Rogers a remporté l'épreuve du jour à Bagnères de Luchon dans la première des trois journées pyrénéennes. L'Italien Vincenzo Nibali a conservé le maillot jaune de leader au terme de cette étape la plus longue de l'épreuve, soit 237,5 km, Nico.
Merci beaucoup, c'était Jacques Aristide pour les sports. On rappelle, hein, tous les lundis soirs, Sporama, 19h, temps universel.
Après les sports, la musique, comme tous les soirs avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. La bibliothèque du Congrès, Library of Congress, hein, la bibliothèque nationale des États-Unis, a rendu hommage à l'auteur-compositeur américain Billy Joel en lui décernant son prix Gershwin, hein, pour la chanson populaire. Ce soir, nous écoutons un de ses plus grands succès, Piano Man.
On a Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life.
Voilà, ainsi s'achève notre émission Le Monde aujourd'hui. On va saluer tous les fidèles qui nous suivent sur Facebook, Freddy Elfrederson Mundeke ou encore Jérôme Alassouma. Comme retrouvez-nous sur le www.lavoixdelamérique.com et sur notre page Facebook. Nicolas Pinault et
Morgane Guiriec
vous ont accompagné ce soir dans ce studio. Georges-Léonard Sagnot était à la mise en onde. Merci à l'ensemble de la rédaction pour la préparation de cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Il est 19h.